Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour. La ristourne de 30 centimes tombe à 10 centimes. Elle disparaîtra à la fin du mois de décembre, remplacée par une aide pour les gens qui travaillent mais roulent beaucoup. Tous les détails manquent un peu. Alors, est-ce qu'on a eu raison de consacrer 8 milliards en 9 mois pour faire économiser 120 euros en moyenne par automobiliste? Voilà, pour 100% en plus des automobilistes. Et puis, une nouvelle aide, plus modeste, 10 à 45 euros à compter du 15 décembre pour encourager à réparer ses appareils électroniques et électriques plutôt que de les remplacer. Les TPE et les PME montent les salaires. C'est une étude assez passionnante qui démontre qu'au premier semestre, la hausse moyenne est de 3,1%. Au sommet, on trouve l'hôtellerie-restauration. Alors, est-ce que les salaires sont justement en train de l'emporter sur les primes dans cette période d'inflation ? Le taux de chômage a baissé, moins 0,1 point. Au troisième trimestre, à 7,3%, ça reste un niveau élevé, c'est un chiffre INSEE. Mais comment fait l'emploi pour résister dans le contexte morose que nous connaissons, avec pas plus tard qu'il y a quelques heures, l'OMC, depuis le G20, qui indique s'attendre à un risque réel de récession, notamment pour des pays riches. Et puis l'AMF s'interroge sur le risque FTX. Et donc elle demande aux grands acteurs français de la crypto de bien vouloir faire état de leur lien avec cette plateforme américaine qui aujourd'hui est sous Chapter 11. Guillaume Dard, bonjour.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, Association française de gestion financière. Jérôme Dédéant, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Associé de tout sur mesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Xavier Timbaud, bonjour.
Bonjour.
Directeur principal de l'OFCE. La politique sur les carburants est-elle bonne, Guillaume Dard? Elle n'est pas terminée, elle baisse d'un cran. Il y a déjà eu des pénuries là ces derniers jours. Tout le monde faisait le plein pour eux.
Vous en avez longuement parlé dans l'émission et ça a eu une vertu importante, c'est que ça a permis à l'inflation française d'être, pas la plus basse, mais enfin une des plus basses de la zone euro. Et comme on est dans un pays où on a une sensibilité très rapide au prix, ça a évité effectivement d'enflammer, même si dans certains endroits ça s'est produit, d'enflammer la boucle prix-salaire. Et le fait d'avoir moins d'inflation, c'est un avantage. Et comme l'énergie contribue de façon significative, c'était une bonne chose. Alors après, il y a tous les défauts qu'on connaît, c'est-à-dire que ça n'est pas distribué forcément au bon endroit. Mais enfin, pour aller vite...
C'était
le meilleur moyen de le faire. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il y a le sujet, est-ce que la ristourne c'était bien? Oui, c'était plutôt bien. C'était plutôt bien parce que, au fond, on ne sait jamais que rendre une partie de l'impôt. Hein.
C'est-à-dire le voir comme ça.
Personne ne perd d'argent. L'État n'a pas perdu d'argent. Il a eu un manque à gagner. Mais
oui, oui.
Enfin, on sait, je ne sais plus quelle est la proportion dans un litre d'essence des impôts.
60 centimes sur un euro, à peu près.
Bon, ok, donc 60%. Donc voilà. Disons que l'État en a rendu un peu. Total a fait un effort par ailleurs. D'où le succès des
500 millions d'euros.
Bon, alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir un peu de chance pour le gouvernement, parce que la sensibilité soudaine à la variation du prix, personne ne peut savoir comment ça se passe. Hein. C'était novembre 18, qu'on a mis une taxe de plus, ça a déclenché les gilets jaunes. Là, le gouvernement, il a une petite chance d'avoir beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que le prix à la pompe, il dépend quand même du prix du pétrole, et le prix du pétrole, il dépend intrinsèquement du prix du pétrole, et puis du dollar. Et qu'est-ce qui vient de se passer sur le dollar? Le dollar est passé en une quinzaine de jours de 0,96 à 1,0450 à peu près
face à l'euro
aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que c'est 8% de baisse. Et le pétrole lui-même, il a perdu un peu moins, mais enfin, il a perdu 4-5%. Donc, avec un peu de chance, si les prix sont répercutés rapidement... parce que c'est assez difficile de savoir quelle est la rapidité entre le moment où le prix du pétrole bouge à la hausse comme à la baisse et le prix à la pompe. Mais enfin, avec un peu de chance, ça se verra pas trop. Le
calendrier peut être bon, on verra ça. Alors, en tout cas, la conséquence, c'est que ce matin, dans plein d'endroits en France, on va payer son litre de gazole un peu plus de 2 euros, puisqu'il était un peu au-delà en moyenne de 1,80. Un avis sur ce moment, la suite avec l'histoire des gros rouleurs qui va être un peu compliquée à mettre en place ?
On peut espérer, comme le dit Guillaume, que le market timing va jouer en faveur de l'État, puisqu'en fait, cette mesure, elle était clairement liée au fait que il voulait éviter que les gens reviennent sur les ronds-points, hein, on va le dire.
Ah, mais clairement. Si on est passé à 30 centimes, c'était pour avoir le vote DLR à l'Assemblée l'été dernier.
Elle a eu un, et à leur demande, elle a eu un mérite qui est que, elle a quand même arrosé. Alors, elle a arrosé large, mais elle a notamment arrosé ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de prendre leur véhicule pour aller travailler. Voilà. Et donc, ça a réglé pas mal de situations. C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'angle qu'adopte désormais le gouvernement d'une aide ciblée, de remplacer cette ristourne universelle à la pompe par une aide ciblée sur ce qu'ils appellent les gros bosseurs, pas les gros rouleurs, mais les gros bosseurs.
C'est le Gabriel Attal à remplacer gros rouleurs par gros bosseurs.
Exactement, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler.
Vous savez pourquoi l'expression a été utilisée ? Parce qu'en fait, on va en rester au niveau de revenu et le fait d'avoir une carte grise. On va pas regarder l'adresse de l'entreprise, le nombre de kilomètres parcourus. Donc le gros bosseur, c'est celui qui a une voiture et qui bosse.
Voilà. Et donc, la substitution de cette ristourne universelle qui avait vraiment... elle était là pour essayer de calmer ou éviter une nouvelle explosion sociale, à part quelque chose de plus ciblé, me semble plus raisonnable. Ça ne règle pas le problème au fond, qui est, est-ce qu'on donne à chaque Français les moyens d'avoir un reste à dépenser une fois qu'il a payé ses frais de transport pour aller travailler, quand il est dans une zone où, entre lui, son lieu de domicile et son travail, il y a de la distance qui ne peut être couverte qu'avec du gazole. C'est un sujet sur lequel il va falloir se pencher.
Il y a le problème de transition, fin du mois.
Ah bien sûr, mais moi
et évidemment, pour l'effet prix qui permet de pousser à la décarbonation, évidemment, on le met de côté.
C'est ça, alors moi je vous
trouve
quand même...
la transition climatique est quand même un sujet majeur et ça allait dans le bon sens, mais dans le contexte français, je comprends que le gouvernement n'avait pas le
choix. Alors peut-être que vous êtes plus réaliste que moi, parce que moi je vous trouve très, très clément à l'égard de tout ça. J'ai quand même le sentiment qu'on vient de dépenser 8 milliards, Xavier Timbaud, en 9 mois, pour faire économiser en moyenne 120 euros par automobiliste sur 9 mois, et pour 100% des automobilistes, y compris ceux qui pouvaient payer un plein à 3 chiffres. Moi j'ai dit ce matin que je considérais le bilan comme catastrophique, objectivement. Après, on peut considérer que la France, c'est la France, que politiquement, il n'y avait pas d'autre solution.
Là, vous êtes là pour faire des éditos, mais enfin, je vous ai entendu encore hier que c'était bien pour l'inflation.
Ah, mais alors après, effectivement, mais je pense que le bouclier tarifaire a plus d'effet sur l'inflation que la restante sur les carburants. Enfin, je ne sais pas.
Oui, Xavier. Le premier point, c'est qu'il s'agit de l'essence, alors que la crise énergétique, elle est quand même principalement sur le gaz.
Oui.
Donc ça.
Oui. Et 8 milliards sur une centaine,
Voilà.
Plus d'une centaine.
Oui.
Total.
Après, ces 8 milliards, il y a un petit goût de gueule de bois, maintenant qu'on se réveille et qu'on se rend compte que ça a coûté 8 milliards. Parce qu'on se dit, si on avait décidé de mettre 8 milliards sur une subvention aux voitures électriques, on aurait pu subventionner 1 million de voitures électriques. Avec une prime à 8 000 euros, Nicolas. Donc 1 million de voitures électriques. C'est pas rien, 8 milliards. Enfin, là, on est un peu à une époque où on a l'impression que les milliards valsent et tombent du ciel et n'ont plus de valeur. Mais enfin, si, quand même, les ronds-points nous ont coûté cher à faire en investissement public. Ils nous coûtent beaucoup, beaucoup plus cher en termes de sécurité et de limitation des manifestations. Cet argent, il aurait pu être utilisé autrement, avec un impact tout à fait significatif pour les Français.
Vous n'avez pas l'impact immédiat, c'est beaucoup plus compliqué à capter pour l'ensemble de l'opinion qu'une ristourne de 20
centimes. Le prix de l'électricité lui-même monte.
Ça fait quand même très cher.
Je suis un peu de votre avis.
Et on a presque envie de se dire deux choses. C'est d'abord, on aurait pu faire autrement. Et ensuite, en fait, aujourd'hui, quand on dit on va cibler pour réduire la facture, est-ce que c'est vraiment ça qui est intéressant ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, par exemple, pour ces fameux gros rouleurs qui travaillent, les aider à faire la transition vers l'électrique ? Et à ce moment-là, on ne parle plus de cette histoire d'essence. Les montants qui sont sur la table, subventionner 1 million de voitures électriques, ça permet de régler le problème de beaucoup de professionnels.
Mais attention, le montant 2023 pour le gros bosseur, on nous parle d'1,6 milliard. Là, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour aider chaque automobiliste qui est dans partie la plus basse des revenus à changer de voiture.
Et comme on a un problème d'énergie, globalement, de coût de l'énergie. C'est que le coût de l'énergie, le sujet n'est pas réglé. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, le gaz reviendra à flot, mais ça n'est pas certain. On a quand même une montée très forte du prix de l'énergie. D'ailleurs, actuellement, c'est le prix de l'électricité qui est au plus haut.
Et d'ailleurs, on a dépensé plus de 100 milliards pour accompagner ou essayer de modérer cette inflation générale des coûts de l'énergie. Hein, c'est pas seulement les 8 milliards de la ristourne.
8 milliards, parce qu'il y a la beaucoup, coupe.
Hein. Bah, moi, j'ai une 2021, 2022, 2023, ouais. En fait.
Ah, alors, c'est, cumulé,
voilà, c'est les 3 ans. Cumulé sur 3 ans. Voilà, ouais. Donc, une année qui n'est pas encore okay. commencée.
C'est d'accord, un chiffre d'accord, qui a été cité par Bruno Le Maire. D'accord, Xavier, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et là, on dépasse le manque à gagner qu'évoquait Guillaume. On est quand même dans une aggravation de déficit public, parce que ça se retrouve à la fin dans la dette française. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Lang, qui consiste à dire que pour des masses d'argent pareil, une mesure court terme, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres ou voler des billets, alors qu'on aurait pu l'investir sur quelque chose de plus lourd. Alors, c'est peut-être, on peut discuter de l'efficacité du véhicule électrique par rapport au véhicule basse consommation, blabla. On peut aussi discuter de savoir si à certains endroits, il ne faudrait pas densifier notre réseau de transport régional par train, ferroviaire, parce qu'il y a plein d'endroits où les bassins d'emploi pourraient être mieux desservis par des infrastructures, évidemment, moins consommatrices de carbone. Tous ces enjeux-là, finalement, on a un petit frustration a posteriori d'un niveau d'analyse de la situation et de distribution de ces montants colossaux par le gouvernement.
Mais ce que disait Guillaume Dard est absolument essentiel, finalement, et c'est d'ailleurs un argument aujourd'hui qui a été repris, d'ailleurs, je crois, par Gabriel Attal hier lors des BFM Awards. Cette dette et ce déficit absolument astronomique, est-ce que ce n'est pas le meilleur choix qu'on a fait pour éviter l'inflation à 10%, éviter la boucle de salaire.
Moi, j'ai pas dit que la dette et le déficit astronomique étaient le meilleur.
Mais c'est la conséquence. C'est la conséquence qui fait qu'on n'a pas eu une hausse de 12% du SMIC.
Enfin, tout est dans l'économie. Je vais pas. Xavier sait tout ça beaucoup mieux que nous. Mais si vous aviez immédiatement une flambée des prix, si vous anticipiez les hausses de salaire des fonctionnaires, je suis pas sûr que ça ne coûte pas plus cher. Hein.
Bon. Il y a une nouvelle aide qui voit le jour mi-décembre, Xavier Thimbault, un mot sur les 10 à 45 euros d'aide pour faire réparer ces vieux trucs et éviter de les remplacer.
Alors, on pourrait vouloir mettre ça dans le même paquet.
Voilà, on pourrait dire que ça continue.
Mais en fait, non. Non, parce que cette aide-là, elle est quand même beaucoup plus structurelle. On est plus dans quelque chose sur le long terme. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'on va inciter et permettre aux gens de réparer plutôt que de remplacer et de jeter. Ensuite, on va aussi créer un secteur économique. C'est-à-dire, on sait que la réparation, en fait, un des obstacles, c'est que la valeur ajoutée qui est créée par la réparation n'est pas suffisante. Les prix des produits neufs baissant très rapidement, la valeur ajoutée créée par la réparation n'est pas suffisante pour qu'il y ait une économie de la réparation. Et là, les montants qui sont sur la table sont des montants qui correspondent à des heures de travail, en fait.
C'est ça.
Voilà, qui sont subventionnés et qui vont permettre de rentabiliser ce secteur économique de la réparation, qui est aussi un secteur dans lequel on a beaucoup d'économie sociale et solidaire, on a beaucoup de réinsertion.
Ça s'entend.
C'est un secteur qui est important. Et ce genre d'aide n'est pas une aide, vous voyez, en réaction à une conjoncture pour éviter un dérapage inflationniste. C'est une aide qui peut avoir un impact assez structurel en créant quelques centaines de milliers d'emplois dans un secteur qui peut naître et prospérer grâce à ça. Et puis changer un peu quelques habitudes. Moi, je ne trouve pas ça une mauvaise approche, pour le coup, des aides publiques.
Les mauvaises langues diront que ça ressemble à des emplois aidés, presque, ce que vous décrivez. Mais j'admets que les arguments s'entendent. C'est 10 euros pour une machine à café, 25 euros pour un lave-linge, 45 euros pour un ordinateur portable.
Et moi, je vais rajouter un angle qui va peut-être vous étonner. C'est qu'en fait, je pense que cette aide-là, dont je salue la valeur, hein, je pense qu'elle a une valeur, aujourd'hui, elle aurait été impossible il y a 10 ou 20 ans, parce que, finalement, elle est rendue possible par la désindustrialisation du pays. Je m'explique, il y a encore 10 ou 20 ans, on fabriquait des lave-linges en France. Il y avait un site, ça avait fini par concentrer, et il y avait un peu une humanité souffrante ouvrière qui luttait contre le conteneur chinois à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ou quasiment plus le cas, et donc en subventionnant la réparation de l'électroménager, on ne met pas à mal plus une industrie qui s'est déjà barrée, en fait. Et donc, elle est rendu possible aujourd'hui politiquement par les enjeux de transition, les enjeux de recyclage et le fait qu'on ne va pas entamer quelque chose qui est déjà détruit.
Et je passe après sur les salaires.
L'économie circulaire, c'est bien entendu une excellente idée. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il faut arriver à recycler, que c'est dans certains cas une gabegie de consommation de voir tous ces objets jetés. On sent bien qu'il y a du gâchis. Donc l'idée, elle est formidable. Deux, peut-être que ça peut redonner un peu de technique de travaux manuels en France et aider comme ça, quand Sylvain Ruby dit « je trouve plus personne », etc. Donc ça peut redonner du goût au travail manuel. Ceci étant dit, les tentatives d'économie solidaire et sociale, il y a eu sûrement des succès, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que je ne sais plus le nom de l'entreprise qui faisait justement c'était plutôt dans les téléphones portables ou etc. qui avaient essayé de faire ça. C'est très difficile. Il y en a qui ont réussi, mais il y en a qui étaient des gros échecs.
C'est très dur.
Reconditionné. Hein, oui. C'est très très dur de marcher parce que l'économie elle est très serrée. On entend 10 euros pour une machine à café, si vous voulez. Si vous passez une demi-heure sur la machine à café, les 10 euros ils sont déjà mangés. Hein, donc c'est sûrement une bonne idée, difficile à exécuter.
Oui, alors, sauf que c'est pas la facture payée TTC par l'État, c'est une incitation.
Oui, ah, voilà. ça vient contribuer. La facture sera plus élevée pour faire réparer sa machine. Mais le consommateur est-il prêt à la payer aujourd'hui?
Ce qu'on dit, la facture peut être forte.
Le comportement du consommateur.
C'est clé, ça.
Il y a un comportement, on va dire, de je peux prolonger la durée de vie de mon appareil parce que le service du dernier appareil à triple derviche tourneur à grand braquet avec la dernière innovation n'est pas tellement plus. Ne me donne pas plus satisfaction ou la satisfaction que je pourrais en retirer ne suffit pas à ce que je prenne un truc neuf. Typiquement, j'ai pas besoin d'une machine à café connectée. Vous voyez, je suis un gars assez simple. Hein, voilà. Et deuxièmement, il y a un enjeu économique qui est qu'à la fin de la journée, le prix de la réparation est souvent moins élevé que le coût sur votre compte en banque du changement d'une machine qui ne vous apportera pas une satisfaction supérieure.
Donc je pense
que ça peut rencontrer un vrai succès. Voilà. Et en fait, ça peut être l'impulsion de dépenses qui permet d'être utile ou vertueuse sur le plan écologique et rencontrer un vrai succès en donnant vraiment cette impulsion initiale pour modifier nos comportements.
Est-ce que tu investiras dans une entreprise de ce type-là?
Ah ben, je regarderai le modèle économique de façon claire.
Ah, c'est la vérité.
Mais là où je trouve que la façon d'attaquer le sujet par Xavier Timbaud est la bonne, c'est qu'autant on a dépensé des milliards pour subventionner le pétrole, ben là on dépense de l'argent pour éviter justement de subventionner le gâchis. Voilà. Les PME qui montent les salaires. Alors, l'étude est assez passionnante. Elle a été menée par Cercle Perspective. Cercle Perspective regroupe 17 cabinets d'expertise comptable. L'étude porte sur 433 600 fiches de paie d'entreprises de moins de 50 salariés. La hausse moyenne au premier semestre est de 3,1%. On se posait la question, Jérôme Dédéon, avec Guillaume Dard, de savoir si justement, boucle prix salaire, pas boucle prix salaire. Là, c'est pas des primes, hein. C'est du salaire.
Ouais.
C'est du salaire. Et donc, avec les hausses importantes qu'on a observées dans certains secteurs, par exemple, EDF, avec sa hausse très importante, qui tout mouillé, hein, et quasiment de 10%, est en train de sérieusement handicaper la branche à laquelle appartient EDF, car quand EDF prend une décision dans cette branche-là, c'est un peu là de la branche. Là, on voit que les TPE, PME aussi.
Voilà. Alors d'abord, je voudrais souligner, si vous le permettez, parce qu'il faut le faire de temps en temps, la qualité de la donnée. En fait, on a un réseau d'experts comptables à valeur ajoutée extrêmement dense en France. Il n'y a pas que l'électronisation du chiffre et de la paye. On les remplace pas par des machines. Ils ont aussi une valeur ajoutée grâce à la donnée et à l'analyse de la donnée qu'ils font. La plupart des cabinets d'expertise comptable ont un pôle social et ils produisent des bulletins de paye et ils rendent service au pays en ayant des statistiques fiables à partir de ces données-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette analyse quantitative sur un très grand nombre de fiches de paye concerne des TPE-PME et donc on voit que...
On a rarement des chiffres les concernant.
Alors, moi je peux vous dire ce que je constate sur le terrain auprès de tous les patrons de TPE-PME que je côtoie quotidiennement puisque j'en vois pas mal avec mon équipe. La première chose, c'est que le patron, si son modèle économique le permet, n'est pas du tout opposé à des hausses de salaire qui stratifient des coûts fixes. Voilà, ça c'est quand même le patron français. Il souhaite mieux payer les gens et quand il a une marge qui se déploie et des capacités, il va raisonner en arbitrant où est-ce qu'il met les choses.
Etc. La CPME n'est pas très chaude sur le dividende salarié.
Mais j'en ai rien à foutre. On peut discuter du caractère poujadiste ou non de la représentation des patrons de TPE-PME. Moi, je vous parle de ce que je rencontre sur le terrain. Les patrons ne sont pas tous des salopards qui disent tout pour ma gueule et rien pour mes salariés et je dis non à toute demande d'augmentation de salaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'ils veulent, c'est évidemment pouvoir le faire de façon ciblée sur les personnes qui contribuent le plus. Un collaborateur qui contribue le plus ou au-delà de vos attentes dans une entreprise, vous souhaitez l'augmenter, vous souhaitez accompagner sa carrière, etc. Sinon, vous n'êtes pas un entrepreneur de bonne qualité et votre boîte va mourir. Vous serez la limite à votre propre boîte. Donc ça, c'est vrai. Ce qui est clair, c'est que c'est largement inférieur à l'inflation.
Oui.
Et ce qu'on constate à côté de ça, c'est que tous les enjeux de rémunération variable se développent de façon considérable. Évidemment, les enjeux d'intéressement dans les TPE-PME, vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille pour leur développement, et on constate que l'équipement se poursuit. Il se poursuit à un rythme qui s'accélère grâce à toutes les mesures qu'on a mises dans des véhicules législatifs ces dernières années, la dernière en vigueur étant l'exécution post-loi PAC de la simplification de la mise en place de l'intéressement. ces mécanismes se développent. Pourquoi ? Parce qu'une saine gestion dans le contexte actuel qui est très incertain, on a cette flambée d'inflation, on a abondamment commenté le fait qu'elle était peut-être temporaire, mais pas si temporaire que ça, qu'il y avait quand même de la fin de d'embouteillage post-Covid sur l'approvisionnement, etc. Il est clair que la saine gestion consiste à partager les années exceptionnelles que vous pouvez faire en ce moment, compte tenu de la reprise extraordinaire qu'on a eue, sans endommager l'avenir, c'est-à-dire sans stratifier des coûts fixes, un semi-remorque de coûts fixes que vous vous prendrez dans la descente le jour où ça décélère. Et donc, c'est pour ça qu'on a des augmentations de salaire, pour toutes ces raisons croisées, hein, de comportement des
patrons. Mais qui restent inférieurs à l'inflation.
Voilà, mais qui restent inférieurs à l'inflation. Et c'est pour ça qu'on a le développement de dispositifs plutôt variables.
Pour aller dans le même
50 secondes avant de marquer une pause.
Oui, pour aller dans le même sens, bien entendu, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui est salaire et intéressement, enfin, que ce soit une formule structurelle ou que ce soit des rémunérations variables complémentaires, parce que tout chef d'entreprise doit gérer son équilibre, non pas juste sur l'année N, mais avoir un peu de perspective à long terme. Et comme il y a cet inconnu sur la façon dont l'économie va se développer dans les années à venir, enfin en tout cas en 2023, où tout le monde annonce que ça va ralentir, vous ne pouvez pas charger la barque. Ceci étant dit, ce qui est en train de se passer sur les augmentations de salaire, et je le vois en interrogeant des grands chefs d'entreprise, c'est qu'en fait, ces augmentations de salaire sont concentrées, si j'ose dire, sur les tranches inférieures de salaire.
Elles sont supérieures en bas par rapport à en haut. Oui.
Très inférieures, très supérieures en bas qu'en haut. C'est-à-dire que beaucoup de grandes entreprises disent augmentation de salaire jusqu'à X milliers d'euros et au-dessus, rien, ça reste à l'individuel.
Mais on a eu une étude tout récemment qui a constaté que d'ailleurs des non-qualifiés dans des métiers en tension avaient des augmentations moyennes nettement supérieures à la moyenne. Enfin, des augmentations nettement supérieures à la moyenne.
Donc ça va resserrer
Et
ça posera des problèmes de second tour, puisque en fait, il n'y aura pas des augmentations comme ça pour tout le monde.
On marque une pause. Dans un instant, Xavier Tabou, si vous voulez rajouter un mot. Et puis, on regardera justement ce qui se passe après les salaires sur l'emploi. La dynamique de l'emploi, pour l'instant, ne faiblit pas. Tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Guillaume Dard, président de Montpensier Finance, société de gestion de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Jérôme Dédéian, associé de tous sur mesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, du conseil en gestion de patrimoine pour tous. Et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Vision m'écrit, pourquoi ne parlez-vous pas du mécanisme européen de taxation? C'est pas de la taxation, c'est de la captation des rentes. Inframarginal, on en a parlé ici même. La France n'aura que 7 milliards en 2022. Mais en 2023, le montant est beaucoup, beaucoup plus important. Pour répondre à cet auditeur qui a le sentiment que la France va, en fait, subventionner les industriels allemands. C'est exactement comme ça que les choses vont se passer. Pourquoi réparer un ancien appareil plus consommateur d'énergie qu'un appareil neuf, m'écrit Danvelgui.
Ça, c'est une bonne question.
Bon point.
Et donc, la réponse, c'est il faut regarder le cycle de vie de l'appareil. Il y a la consommation de l'appareil pendant qu'on l'utilise.
Oui, mais sur l'ancien, vous n'avez pas de cycle de vie, vous ne le connaissez pas.
Oui, mais il y a quand même un coût de fabrication nouveau.
Oui.
Donc, on peut regarder le gain qu'on peut faire en énergie. Imaginez, je ne sais pas, une cafetière. Vous achetez une cafetière qui est un peu plus moderne et qui sera peut-être un peu plus économe en énergie, mais il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer la cafetière.
Oui.
Et donc, est-ce que la différence d'énergie que vous avez sur l'utilisation de votre nouvelle cafetière compense sa fabrication?
Tant qu'il n'y a pas d'étiquetage du carbone, tant qu'il n'y a pas d'étiquetage. C'est le cheval de bataille de Guillaume Poitrinal. S'il n'y a pas un étiquetage carbone sur les produits, vous ne pouvez pas faire ça tout seul dans votre coin.
Sur la totalité du cycle de vie, mais la data va nous arranger ça. Non, mais je suis un incorrigible optimiste. Je pense que dans un avenir pas si lointain, on sera capable de calculer l'empreinte carbone sur sa durée de vie résiduelle prolonger un grille-pain. Appelons les choses par leur nom, prenons des exemples simples par rapport à l'achat.
Il n'y a pas de gain énergétique possible sur un grille-pain. Donc après, c'est assez simple entre un nouveau et un ancien.
Bon. Oui, mais sur la durée de vie résiduelle.
Ça va être assez compliqué à développer, votre affaire.
Hein. Moi, bien sûr.
L'étiquetage du carbone.
Non, mais même si c'est compliqué, il n'en reste pas moins, et là je rejoins Jérôme, c'est la seule solution en fait. C'est-à-dire, il nous faut cette rationalisation de nos usages pour que les gens le comprennent, pour qu'on mette l'argent aux bons endroits pour subventionner la réparation quand elle n'est pas économiquement viable, mais qu'elle est socialement intéressante au sens du carbone. Donc il faut absolument aller dans ce sens-là.
Et ça éviterait...
Je comprends votre point, ça va être
ça éviterait des choses aberrantes. Je vous donne un exemple, comme beaucoup de scooteristes parisiens.
Oui.
Je me suis retrouvé à acheter une daube chinoise électrique qui est arrivée en conteneur avec toute son empreinte carbone de fabrication, etc. parce qu'on m'y a contraint. Alors que j'avais un scooter thermique dont je me servais peu, qui consommait peu, qui était largement amorti, etc. Et donc, c'est typique d'une décision qu'on m'impose, on modifie mon comportement, je ne suis pas du tout sûr que dans la manip, la planète y gagne en émissions carbone.
Alors, on a dit que c'était 10 à 45 euros. Là, j'ai une auditrice qui s'appelle Marie, elle m'envoie une capture d'écran d'un grille-pain chez Lidl qui vaut 22 balles. Alors, évidemment, est-ce que tu vas faire réparer?
Bon. Mais ça, c'est le...
Il est super mal. Il est assez design,
c'est
un peu.
C'est pour ça que je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir des masses d'entrepreneurs qui vont se jeter dans ce business.
Non, mais c'est pour ça que la question économique de ce modèle est absolument essentielle. Donc, il y a subventionner la réparation ou pour aider à la réparation. Il y a ensuite aussi faire payer le recyclage, faire payer l'empreinte énergétique qui était nécessaire pour fabriquer ce grille-pain, en donnant un prix au carbone qui va permettre de prendre en compte le transport, la fabrication, et qui fera que...
Mais donner un prix au carbone, Xavier Tabo, ça suppose d'assumer politiquement le fait de faire payer quelque chose qui était gratuit.
Avec ce petit exemple, extrêmement louable, on tombe sur toute la problématique qui est la nôtre, c'est-à-dire comment lutter pour la meilleure transition climatique possible, tout en évitant des réactions des populations incroyablement négatives par l'effet prix, puisqu'on sait très bien que les dépenses... Enfin, c'est le livre de Christian Boyer, qui a été le prix BFM Business Montpensier, sur lequel qui le dit, qui l'écrit et qui le redit à chaque fois en disant « on n'échappera pas à un coût supplémentaire ».
D'accord. Xavier Tabo.
On n'échappera pas à un coût supplémentaire, mais si on veut que la réaction des gens soit la plus positive possible, il faut leur offrir des alternatives. Et si on met en place un secteur de la réparation, quand on va augmenter le prix du grille-pain à 22 euros chez Lidl pour le mettre à 50 euros, qui est plus représentatif des coûts pour la planète, le consommateur, il se dira « ok, c'est 50 euros, c'est plus cher, mais j'ai une alternative parce qu'il y a un secteur économique qui est capable de réparer mon ancien grille-pain pour 15 euros. »
Mais il va rester à 22.
Non, il ne va pas rester à 22, il ne doit pas rester à 22. Le prix à 22 est une aberration environnementale.
Donc c'est tout le sujet.
Et donc, il faudra augmenter ce prix. Mais il faut proposer des alternatives, et ces alternatives vont changer les comportements quand on peut les changer. Dire aux gens, le grille-pain il est plus cher et c'est tout, ben, c'est quelque chose qu'effectivement ils rejettent.
Vous vous souvenez quand vous étiez jeune de l'angoisse des parents quand ils allaient chez le garagiste où ils ne savaient pas si ça allait coûter 100 francs ou 2500 francs, où il y avait une espèce de... Donc il y a quand même une inconnue. Les gens, on est dans un monde où les prix ont beaucoup baissé, où le pricing passe. Et de l'autre côté, comme on a le problème des revenus, attention à l'équation.
Et ça nous
oui,
ramène
pour l'avenir, mais il faut le gérer à court terme.
Et ça nous ramène au sujet de qualité et de soutenabilité du modèle économique de ce qu'on déploie. Moi, j'ai réglé le problème parce que des entrepreneurs qui portent des projets à impact, on en rencontre des centaines. Ils ont tous une très belle idée, ils veulent décarboner ci, décarboner ça, etc.
Il y a des offres dans mais bien sûr, absolument. Alors, allez voir ce que fait Léonidas Kalogeropoulos avec les entrepreneurs pour la République, c'est époustouflant.
Moi, je vous encourage à aller voir une association dont je suis ambassadeur qui s'appelle Entrepreneurs pour la Planète, qui met des chefs d'entreprise expérimentés à côté en binôme, dans une logique de mentorat, avec des porteurs de projets à impact. Et la grosse contribution qui me semble que les mentors apportent, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire dans mes opérations de mentorat, c'est derrière la grande et belle idée généreuse, etc., essayer de regarder s'il y a un marché avec une demande et un coût de fabrication qui permet d'externaliser une marge pour que le modèle économique de décarbonation que propose cet entrepreneur ou cette entrepreneuse à impact soit fiable. Voilà, et viable. Et donc, cet enjeu-là, en fait, c'est un enjeu de confiance dans dans le marché et dans l'intelligence humaine et dans la capacité à trouver des solutions en face de sujets. Et typiquement, peut-être que ça marchera pas pour les grille-pains parce que c'est une commodité totale sans valeur ajoutée. Je vais peut-être me faire allumer par des ingénieurs qui travaillent sur le grille-pain de demain.
Le
four à micro-ondes. Le four à micro-ondes n'est pas un bon exemple non plus de trop grosse valeur ajoutée aujourd'hui, mais sur une machine à laver un peu plus complexe, le lin, ou un sèche-linge, etc.
Non, mais le problème, c'est que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'à ce moment, on peut se poser la question, c'est très bon, moi j'aime beaucoup le pain grillé, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire alors que ça consomme de l'énergie?
J'avance.
Donc tu en finis
on
pas.
On va regarder...
Non, mais de la planète, hein.
C'est l'histoire de la de l'étiquetage carbone des produits, c'est effectivement l'étape d'après. Et après, la viabilité des solutions d'entrepreneurs qui sont proposées.
Ce qu'on peut dire, c'est quand même, ça progresse énormément. Quand on voulait voulait calculer, ça progresse dans d'autres domaines. Donc, on va finir par y arriver pour nos objets de consommation courante et nos usages courants. Quand on voulait évaluer l'empreinte carbone de son entreprise, il y a encore quelques années, on avait une armada de juniors qui venait cruncher, comme on disait dans le conseil en stratégie, des données sur une feuille Excel. On payait à la journée, ça coûtait une fortune, etc. On a aujourd'hui un paquet de boîtes qui ont des systèmes s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Il y en a une que je connais bien qui s'appelle Carbometrics, qui développe un système assez peu coûteux, relativement fiable, et notamment au niveau du troisième domaine d'analyse, qui est celui qui est le plus complexe à appréhender pour une entreprise. Et les coûts baissent parce que l'intelligence artificielle, les algorithmes progressent, la capacité à exploiter de la data en grand nombre, qu'on peut enrichir, mais même en aspirant de la donnée publique, on sait faire des choses aujourd'hui.
Mais aussi parce qu'il
commence à avoir un intervalle de fiabilité, et évidemment, ça entraîne une baisse des coûts.
Collective.
Aussi parce qu'il y a une régulation pour produire de la donnée et faire du reporting.
Alors bien sûr.
Et ça, c'est essentiel pour fournir la matière première à toute cette aventure.
Donc c'est toujours la combinaison d'une pression réglementaire et du génie humain.
Voilà. Les solutions d'entreprise, moi, ça me passionne.
Et
effectivement, on en parle beaucoup avec Leonidas. J'en rencontre aussi souvent. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec une entreprise qui fabrique des machines selon la technologie ORC, hérité d'un physicien allemand du 19e siècle, c'est de la thermodynamique, et en récupérant la chaleur fatale, les chaleurs perdues dans une usine, eh bien on fabrique de l'électricité. On peut aller jusqu'au quart de la production de l'électricité de l'usine uniquement produite à partir de chaleur fatale. C'est incroyable.
On voit le génie humain là-dedans. J'ai visité l'autre jour une blanchisserie industrielle flambant neuve à Argenteuil, dirigée par un de mes amis. Vous ne pouvez pas imaginer l'extraordinaire système de récupération de la chaleur dégagé par le lavage, de façon à réalimenter.
C'est tout l'intérêt du système prix. C'est-à-dire que, et c'est la beauté du marché. Il faut de la réglementation, mais la beauté du marché, c'est si une denrée devient rare et chère, il est clair que les entrepreneurs vont trouver des comportements d'optimisation.
Exactement, pour baisser leur coût de revient et être compétitifs en ayant toujours de la marge.
Et régler le problème de la planète progressivement.
Il y a déjà un indice de réparabilité, rappelle un auditeur à l'instant, sur pas mal d'équipements. Voilà. Pourquoi se baser là-dessus pour surtaxer les produits non réparables et donc éviter ces grille-pains à 22 euros?
Bien sûr. C'est une très bonne suggestion.
Oui, absolument.
Encore une fois, ce qui compte, c'est que le consommateur ait un éventail de choix. C'est-à-dire dire « je taxe ce qui n'est pas réparable » quand il n'y a pas d'alternative, le consommateur le prend comme une sanction. Quand on lui dit « tu as le choix entre un téléphone avec un indice de réparabilité de 2 et un téléphone avec un indice de réparabilité de 8 », ben oui, il peut comprendre qu'on taxe celui qui a deux.
On disait qu'on était parti d'un petit exemple qui était éclairant sur beaucoup de choses. Vous disiez qu'il faut une alternative, mais ça c'est un sujet absolument essentiel, parce qu'aujourd'hui, sur bien des sujets qu'on est en train de normer, on n'a pas d'alternative. On fait des ZFE dans toutes les villes de France.
Oui.
Face à des gens qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui, malgré les subventions publiques, d'avoir un véhicule électrique pour aller...
C'est pour ça que les 8 milliards qui ont été mis sur la subvention à l'essence vont apparaître comme vraiment dramatiques et que la gueule de bois va augmenter, parce que
il y avait le moyen de
subventionner 8 milliards d'alternatives. C'est énorme.
C'est pareil. On a aujourd'hui mis des échéances hyper proches pour rénover des bâtiments F ou G en termes de bilan énergétique et l'impossibilité de les louer si ces bâtiments n'ont pas été rénovés.
On peut aller à l'industrie automobile. La décision 2035, qui est une très bonne décision pour la transition climatique si on passe à l'énergie, que moi je soutiens. Mais de l'autre côté, quelles seront les réactions des gens qui vont perdre leur job? Et j'ai lu ça ce matin, il faut deux fois moins de personnes pour construire une voiture électrique.
Cinq personnes pour une thermique, trois pour une électrique, dit-on, effectivement.
Okay. Ouais.
Mais c'est une vraie question.
Vous l'expliquerez aux deux.
Je suis d'accord, mais Thierry Breton, quand même, a tenu à rappeler hier qu'il y avait une clause de revoyure à 2035 décisions européennes.
Ce qui était intéressant, c'est quand même la réaction des constructeurs automobiles qui ont dit oulala, on nous fixe un cap. Nous, on prend le cap et on fait des décisions stratégiques là-dessus. On commence pas à nous dire on va peut-être changer de trajectoire. Et je pense que là, il y a quand même un petit message assez important. Je suis pas sûr que la remarque de Thierry Breton ait été aussi opportune que ça. Des clauses de revoyure, il y en a. Parfois, il faut simplement dire qu'elle est là et qu'on l'activera si ça va très très mal. Mais que tant qu'on n'a pas de raison de douter, on continue le plan tel qu'il était prévu.
Disons que les industriels disaient qu'il ne fallait pas y aller aussi vite, mais maintenant qu'on nous a donné cette date, on s'adapte. Alors si on nous change le calendrier...
Il faut coordonner énormément d'acteurs.
Ferrari. Vous savez que Ferrari a obtenu un opt-out.
Oui.
Il faut coordonner énormément d'acteurs. C'est quand même très important d'avoir un message clair et qui ensuite est suivi par les acteurs. Quand on commence à douter et à mettre un peu de fumée autour de ça, c'est pas bon.
Mais mine de rien, dans tout ce qu'on s'est dit de manière un peu décousue, là, il y a quand même plein d'éléments essentiels qui n'ont pas encore trouvé leur place dans la réflexion globale de la transition énergétique.
Non.
Et souvent, l'Europe met plutôt la fin avant les moyens, confond vitesse et précipitation.
Mais il y a un sujet central qui est le coût de l'énergie. L'économie, c'est l'énergie transformée. Donc, de toute manière, il faut régler le problème de la fabrication d'énergie au niveau global. Il faut augmenter le renouvelable de toutes les façons possibles. Alors, bien entendu, il y a le problème des éoliennes en face des villas de fond de mer, mais ça ne doit pas arrêter la réflexion globale. Il y a le nucléaire qui n'est pas un consensus absolu. Et il y a l'hydroélectrique.
Et qui doit faire ses preuves en termes de prix.
C'est important, mais l'hydroélectrique, ça se développe pas non plus comme ça, et on veut pas tous des barrages des trois gorges qui a des effets complexes. Donc, le sujet de l'humanité des 20 années à venir, c'est comment arriver à avoir une énergie abondante à prix raisonnable.
Et sans carbone.
Et sans carbone. Et bien entendu, sans carbone. Une énergie à prix raisonnable et arrêter d'extraire 9 milliards de tonnes de charbon par an.
Et Jérôme, on passe, que je voudrais parler quand même du taux de chômage et puis de l'AMF et de FTX.
Je suis d'accord que l'énergie est vraiment le sujet central. Hein. Après, je ne suis pas sûr que les grandes politiques décidées d'en haut en disant on va faire ci et ça dans le mix, etc., soient vraiment la solution. Je pense que la solution est souvent très locale. C'est exactement comme pour l'approvisionnement en eau.
Il y a un moment, Jérôme, si on veut avoir des productions massives d'énergie, s'il n'y a pas une intervention publique avec de la subvention, elle n'existe pas. On n'aurait pas eu l'éolien et le solaire si ça n'avait pas été pendant des années subventionné, avec le principe contractuel de la rente inframarginale, qui fait que désormais, effectivement, quand les prix ont atteint un certain niveau, il y a un reversement.
D'accord sur tout ça. Il y a quand même énormément de petites choses qui pourraient être faites localement un peu partout, l'éolienne couchée sur le toit du nouveau bâtiment industriel, etc.
Le char à voile.
Qui sont des choses, merci Guillaume, ça m'aide beaucoup. Toutes ces choses-là sont un peu laissées de côté par ces grands plans énergie, alors que la créativité locale permet de faire des choses.
Il faut que local. Il y a des éléments globaux absolument essentiels.
Oui, de R&D monstrueuse, de R&D, d'infrastructure, de coûts d'infrastructure telles que ça ne peut pas se faire sans l'aide de l'État et de la puissance publique et sans la réglementation.
Ça n'empêche pas énormément de place au local qui est effectivement là que ça se produira. Et puis, on a besoin de tellement d'innovations et d'avoir des démonstrateurs. Il faut essayer, il faut faire marcher, il faut trouver les bons réglages.
Les solutions viendront des entrepreneurs et des entreprises, les vraies solutions.
Les solutions viendront de tout le monde. Mais le truc, c'est qu'il faut arriver à faire travailler tout le monde ensemble dans la bonne direction.
Ça nous ramène sur le petit ping-pong que j'ai eu avec Emmanuel Le Chypre hier lors des BFM Awards sous la pyramide du Louvre. Est-ce que vous arrivez à comprendre, en tant qu'économiste, Xavier Timbaud, les chiffres des créations d'emplois, des intentions d'embauche, pour les cadres notamment, on a eu les chiffres de l'APEC. Quand vous avez là l'OMC qui dit dans la nuit depuis le G20, ça va être la récession pour pas mal de grands pays. Quand vous avez Bruxelles qui dit de toute façon récession en zone euro, quatrième trimestre, et là où on attendait plus de 1% de croissance, on tombe à 0,3% et même l'Allemagne sera à moins 0,6% en 2023. Il y a une espèce de contraste entre ce qu'on observe, ce qui sort, ce qui ressort de la tête des chefs d'entreprise et ce que nous dit la macro.
Oui,
L'emploi résiste ?
Pourquoi l'emploi résiste ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Bon, d'abord, vous avez raison de rappeler qu'il y a un contexte qui est plutôt négatif. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait aligné ses anticipations exactement sur ce contexte négatif, ou en tout cas, qu'il n'y ait pas un certain nombre de gens qui se disent « Bon, voilà, ça, c'est un risque, mais il y a une incertitude, et donc il y a des scénarios plus positifs. » Et puis surtout, il y a un élément qui est que cette récession, on sait qu'elle est liée à la hausse du prix de l'énergie, en particulier du gaz, et en particulier du prix du gaz en Europe, et donc que c'est très lié au conflit entre l'Ukraine et la Russie, en tout cas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc que de ce point de vue-là, ça peut s'arrêter assez vite.
C'est ça.
Voilà. Donc
il y a peut-être l'espoir que...
Je pense que cet espoir reste là. Ensuite, il ne faut pas oublier...
J'ai envie d'y croire, à l'hypothèse de 3% de croissance en 2023 parce que la guerre s'arrête.
En tout cas, je pense qu'un certain nombre de gens se disent il faut quand même être prêt dans cette situation. Donc peut-être que c'est un risque à la hausse, mais en tout cas, il faut l'intégrer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est on sort du Covid, qui est une période qui a gelé beaucoup de choses. Donc par exemple, l'emploi des cadres, moi ça me surprend qu'à moitié. Pendant le Covid, il y a eu très très peu de mouvements.
Mais c'est vrai.
Donc, on sait que c'est pas comme ça que ça marche. Une économie, ça marche avec beaucoup de mouvements. Et que, au bout d'un moment, vos salariés, ils ont la bougeotte. Vous, en tant qu'entrepreneur, c'est pas juste traiter bien les salariés que vous avez. Il faut en trouver quelques talents que vous allez repérer un peu ailleurs. Pendant le Covid, ça n'a pas lieu. Maintenant, on se rattrape parce que ça devient essentiel. Troisième élément, on sort du Covid et les entreprises ont eu accès à de la trésorerie. Il y a beaucoup moins de faillites que ce qu'on a observé les années précédentes. le fait qu'on ait moins de faillites, ça nous explique un peu pourquoi on a plus d'emplois. On peut se dire, bon, ça va se payer un jour, c'est-à-dire qu'on va revenir à la normale et à ce moment-là, on va avoir des wagons de fermeture d'entreprise et donc de licenciement derrière. On peut se dire, bah, peut-être qu'en fait, quand on lève la contrainte de trésorerie sur les entreprises, ça permet à un certain nombre de survivre.
C'est le nerf de la guerre.
Et, il y a peut-être aussi la... et en fait, peut-être que ça va avoir un effet positif un peu inattendu.
Xavier, il y a peut-être aussi la mauvaise raison, c'est qu'il y a des reculs de gains de productivité.
Mais ça, c'est la contrepartie, en fait. Alors, c'est la contrepartie, ça peut permettre de dire, attention, tout ça n'est pas très soutenable, parce que cette baisse de productivité, elle va se traduire à un moment ou à un autre. Mais bon, baisse de productivité, mais on a parlé des salaires, les salaires, ils augmentent moins vite que l'inflation.
Oui.
C'est un moyen de remanger un peu cette baisse de productivité. Donc la productivité, il faut la regarder par rapport à l'évolution des salaires réels. Voilà, donc peut-être que c'est le modèle dans lequel on est.
J'entends l'analyse. Guillaume Dard.
Je pense que le scénario de Xavier est plausible, il y a une possibilité. Tout le monde, d'ailleurs, est dans cette bifurcation d'interrogation, c'est-à-dire de dire, et si ça repartait quand même bien ? Il y a deux raisons pour lesquelles il doit y avoir une crise. Enfin, il y en a plein de raisons pour lesquelles il doit y avoir une crise. Il y en a une qui est le prix de l'énergie. Il y en a une deuxième qui est le changement de cap des banques centrales sur les taux d'intérêt et sur l'injection monétaire. Et donc, il suffit de voir, est lié à l'inflation, il suffit de voir ce qui s'est passé la semaine dernière quand le chiffre d'inflation américaine était incroyablement proche de celui qui était prévu, mais inférieur, ça a généré des hausses, dans certains cas, de 15-20% de valeur de technologie.
On avait presque l'impression que la Fed faisait un quantitative easing surprise. C'était hallucinant.
Et donc,
Nasdaq a pris 7-3%.
Beaucoup de choses se jouent là-dessus, parce que Xavier soulignait à juste titre que les entreprises n'avaient pas eu trop de problèmes de trésorerie, mais d'autant plus que les crédits dont ils avaient pu bénéficier étaient quasiment à taux zéro. Et il y a une grosse différence entre le taux zéro et un taux à 4-5%. Et actuellement, par exemple, dans l'immobilier, l'immobilier, je ne parle pas de l'immobilier résidentiel, encore que l'immobilier résidentiel, on va en voir l'effet un peu. Tout le monde se demande ce qui va se passer sur les prix du résidentiel. Là où les gens empruntaient à 1%, ils vont emprunter à 3% et peut-être demain à 4%. Et dans l'immobilier de bureau, les grandes foncières, elles empruntent globalement maintenant à 7%. Donc ça, c'est des game changers très importants. Donc tout le monde avait le sentiment d'aller vers la falaise. Pour l'instant, coup de chance, la falaise se recule un peu et personne ne sait.
L'AMF va interroger les acteurs français de la crypto sur leur lien avec FTX. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette information ou à le trépas de cette plateforme d'échange de Bitcoin, enfin de Bitcoin, de crypto-actifs, qui donc a été confirmée, puisque depuis vendredi, elle est sous Chapter 11. Un avis là-dessus, Guillaume Dard, pas trop long, parce que si on peut dire un mot des retraites aussi.
FTX, le personnage était flamboyant, visiblement...
C'est une histoire extraordinaire, ce personnage.
Complètement allumé, mais incroyablement intelligent. Et c'est-à-dire son mécanisme de réflexion, c'était de dire, au fond, je regarde la probabilité de l'événement, est-ce que je peux gagner ? Et il disait, au fond, il vaut mieux jouer une petite probabilité, mais avec la possibilité d'avoir un gain immense. Donc, à l'américaine, il a joué. À un moment, il a dit, je vais acheter Goldman Sachs. Et alors, il avait un mécanisme un peu dangereux, c'est-à-dire qu'il a une société d'intermédiation, une société de compte propre, et puis au bout d'un certain temps, c'était séparé théoriquement, puis ça ne l'était pas. Il était bien vu, il avait donné 500 millions de dollars, enfin, ai-je lu,
à
la campagne de Biden. Donc, FTX...
Deuxième démocrate américain.
Problème d'intermédiation. De donateur. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une chaîne entre tous ces systèmes d'intermédiation qui risque de faire tomber le système ou de le faire rebaisser ? Ce qui est clair, c'est qu'il y avait... une crypto, pas monnaie, mais un crypto actif, le Bitcoin, qui est à peu près cadré, parce qu'on peut toujours avoir des mauvaises surprises, et puis tout d'un coup, il y a une floraison de déclinaisons avec des noms impossibles, où là, on sentait bien l'extrême spéculation et l'instabilité du système. Donc tout le sujet sur les crypto actifs, c'est de savoir si le Bitcoin va peut-être souffrir, parce qu'il va y avoir des liquidations en chaîne, mais est-ce que le Bitcoin reste, parce que il est maintenant acheté par les investisseurs institutionnels. C'est un peu comme de l'or, ça a théoriquement pas de valeur, mais ça peut être une réserve de valeur quand même.
Cette affaire-là, on peut rajouter deux choses. On peut rajouter, un, qu'il a fait du levier en achetant de la monnaie réelle et en le backant avec sa propre monnaie qu'il émettait. Donc là, on a quand même un sujet de qualité de ce qu'on met en garantie comme actif en face de son levier. Donc c'est assez emblématique, hein, cette histoire-là. Vraiment, le truc est intéressant. Après, je vais peut-être faire le vieux schnock. Moi, j'ai toujours considéré que c'était des actifs et pas des monnaies, ces trucs-là.
Moi aussi.
Donc des objets de spéculation.
Ah non, pas tout le monde.
Et et que quand on veut développer une place de marché avec un actif et encore plus avec une monnaie, le régalien finit par s'occuper de vous. Bon. Et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors moi, ce que j'adore dans l'histoire, il y aura un film sur cette affaire-là, c'est effectivement son principal concurrent, parce qu'il y a quand même des interdépendances remarquables entre toutes ces grosses plateformes-là. Il y a son concurrent qui a quand même accéléré sa chute en retirant 400 milliards d'un seul coup.
Peut-être pas autant quand même.
Ah si, c'était beaucoup, c'était énorme.
Non, c'est un zéro de moins. Non.
Alors c'est peut-être 400 millions, pardon, excusez-moi.
Non, 4 milliards.
C'est le début de la journée. Non, c'était il y avait 4
zéros. En tout cas, Binance, qui était repreneur, s'est retiré par surprise et ça précipite la chute. Ça provoque le bank run, de toute
façon. Et donc, je trouve que c'est à la fois une bonne dramatique, comme il y en a beaucoup dans l'histoire de l'humanité, qui est très intéressante à regarder, et puis quelque chose qui nous apprend que dès lors qu'on touche à la création d'un système d'échange, et bien forcément il faut que le régalien s'en mêle, sinon ça devient la jungle et c'est exactement l'instabilité qu'on cherche à éviter.
Elisabeth Borne confirme qu'il y aura une réforme des retraites en vigueur à l'été 2023. C'est l'information du jour. De ce que l'on sait depuis l'interview d'Olivier Dussopt, c'est que le minimum retraite sera au-delà des 1100 euros annoncés, probablement à 1130 euros, soit 85% du SMIC net, et ça devrait bénéficier à 25% des retraités. On sait également que les fonctionnaires sont totalement épargnés, on n'y touche pas, et ce sera la clause du grand-père qui va protéger les salariés actuellement sous statut, comme ceux de la RATP, les électriciens, les gaziers ou ceux de la Banque de France. Les nouveaux embauchés, comme à la SNCF, seront éventuellement soumis à un nouveau système de retraite et plus le régime spécial sur lequel ils auraient pu compter. Et puis il y a cette idée qui circule, qui est un peu la face cachée de l'histoire de la réforme des retraites. Il y a toutes les autres caisses, les caisses bénéficiaires, qui sont très nombreuses, au-delà du régime général, et qui se demandent s'il n'y a pas la volonté, à l'occasion de cette réforme, d'aller faire un peu main basse sur des caisses bénéficiaires pour essayer de remettre les comptes dans le vert à bon marché. Guillaume, chez Xavier, vous avez un avis là-dessus? Parce que
oui,
vous n'avez pas parlé plus longtemps, mais...
D'abord, il y a la méthode Borne. Je pense qu'elle est assez intéressante parce qu'on voit que, contrairement à la façon dont le projet des retraites avait été abordé les fois précédentes, où on parlait beaucoup de principes, de concertation, et puis ensuite on avait l'impression que c'était autoritaire, la méthode Borne, elle est quand même moins grandiloquente, mais très concrète. Et elle donne tout de suite, elle désamorce tout de suite un certain nombre de sujets. Bon, la méthode du grand-père sur les régimes spéciaux, par exemple, on peut trouver ça injuste, insuffisant.
C'est la seule solution.
Mais en fait, c'est la seule chose qui marche.
Voilà.
Donc, et si on l'avait fait il y a 10 ans, on l'aurait fait il y a 10 ans et on aurait un peu moins de problèmes.
Environ 30 ans pour éteindre un régime.
Voilà. Et on aurait fait un tiers du chemin il y a 10 ans. Voilà. Donc, on le fait aujourd'hui. On aurait pu le faire il y a 10 ans. On a voulu y aller. On a voulu gagner plus en fait, et on a perdu. Et donc voilà. Mais je pense qu'elle a raison et qu'il faut être très concret, il faut donner des signes clairs aux partenaires sociaux qui sont très inquiets sur un certain nombre de questions. Donc là, les messages, ils sont envoyés,
oui, ils sont
clairs, et ils vont peut-être permettre de discuter sur le fond sérieusement et d'avancer. Voilà. Donc, il faut quand même saluer cette méthode, parce que voilà.
Et c'est vrai qu'Olivier Dussopt mène assez habilement sa barque, parce qu'il a quand même deux gros dossiers qui sont les retraites et l'assurance chômage. On est 1 minute 40. Les craintes et des régimes autres de voir finalement l'exécutif les regarder d'un peu près.
Ça ne va pas être facile à faire passer, parce que si on explique que les fonctionnaires vont être exclus de la mesure, ça va déjà être difficile. Deuxièmement, si on explique que les excédents des caisses de retraite complémentaires annexes vont être déversés...
Personne ne l'a assumé, ça.
Hein. Non,
c'est une inquiétude.
Mais ça fait 5 ans que
ça fait longtemps qu'on en parle. Oui.
Si on explique que ça va être déversé, je ne sais pas si c'est le tonneau de Danaïque global, mais enfin, c'est l'idée, c'est que c'est à la petite semaine, on sait bien qu'on est en déficit budgétaire, donc hop, que ça va coller une rustine un an et que ça va avoir disparu, je ne pense pas que ça va réjouir tous les adhérents des caisses de retraite complémentaires, et que là, vous connaissez la phrase, il y a des chiens dans chaque niche est défendue par un chien, là, ça va faire une meute qui va se retrouver avenue de Ségur.
Pour terminer, 40 secondes. Ils sont tous déjà les notaires, les pharmaciens, vous inquiétez pas qu'ils sont super, ils sont sur le qui-vive.
Moi, j'ai deux choses. Cette méthode qui consiste à parler des arbitrages qu'on a rendus alors qu'on entame la négociation, moi je la trouve intéressante parce que ça montre une espèce de volonté d'aboutir.
Ah mais là il y a la volonté d'aboutir.
Après, vu la pression que nos confrères européens nous mettent sur le rable sur cette réforme, parce qu'ils l'ont déjà faite, et c'est pas complètement anodin que le gouvernement cherche à aller plus loin. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec le fait que les fonctionnaires ne sont pas touchés, puisque si les fonctionnaires n'étaient pas touchés, on ne toucherait rien. Or là, on va toucher massivement c'est l'intention en tout cas, les retraites des fonctionnaires, puisque cette clause de grand-père va figer le passé et va modifier les conditions pour les nouveaux entrants
dans le statut. Pour les régimes spéciaux, mais les fonctionnaires, on ne touche pas. Hein,
non, mais, c'est, voilà. Et donc, il y a là, pour moi, une avancée majeure dans la façon de procéder, enfin, puisqu'il y a deux solutions. Hein, soit on gèle les droits des anciens et on traite que les nouveaux, soit on rachète la rente des anciens, mais ça me semble plus simple de les geler plutôt que d'essayer de leur proposer
Il faut payer pour réformer, on le sait, et puis habilement, le gouvernement évite de parler de l'âge de départ légal et de la durée de cotisation.
Enfin, tout ça n'est pas fait.
Hein. Non,
courage au gouvernement.
Mais en tout cas, ce ne sera pas en loose day dans la loi de finances de Sécu avant Noël. Hein. On a fini, là, il faut vraiment qu'on y aille. C'était Guillaume Dard, Jérôme Dédéian, Xavier Thimbault. Rendez-vous demain à 9h.